bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Salut les amis et bienvenue à vous pour cette radio manif contre le sabotage des retraites et globalement cette révolte contre ce système capitaliste de merde qui écrase des gens qui n'en peuvent plus et qui vont vous le dire.
Travaille pour ça et ferme ta gueule. Travaille pour ça et ferme ta gueule.
Au menu de cette émission, des profs, des paysans, des gilets jaunes qui font la bise à des anarchistes et à des syndicalistes de Sud Solidaire. Bah oui, si Sud Solidaire a été dès 2018 solidaire des gilets jaunes ont été très présents dans les manifs contre la retraite à points. C'est pas de la convergence ça ? Bien des gilets jaunes ont fait beaucoup de chemin politique en seulement un an, même si nombre d'entre eux refusent encore d'admettre qu'ils font de la politique et qu'ils réinventent même ce que la politique a de plus noble.
Le gilet jaune, comme dire, il est moins obtus qu'avant.
Et puis en cours de route de cette émission, vous aurez aussi droit à un magnifique spécimen de gilet jaune intermittent du spectacle au look rockabilly. Une rareté, vous allez voir. Ça va vitupérer et cogiter pendant une heure. C'est parti. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Paysan.
Agriculteur, oui. Petite exploitation céréalière, petite.
Tu portes le jaune fluo des gilets jaunes avec un autocollant rouge de la CGT par-dessus. Comme quoi, voilà. C'est pas incompatible ?
Non, c'est pas incompatible, bien au contraire. Mais bon, je me sens obligé d'être dans la rue parce qu'on est tous dans la même galère. Que ce soit l'éducation, la santé, les ouvriers d'usine, les ouvriers de la SNCF, tout le monde, le public, le privé, on est tous dans la même merde. Ça, faut que ça s'arrête, ce gouvernement à la con, faut qu'il comprenne les choses. On a le droit de gagner notre vie dignement. Et ne pas survivre, là c'est de la survie. Et pour combien de temps de la survie, on ne sait pas. Parce que si ça continue, ça va basculer. Et puis là, on est encadré par la milice à Macron, alors ce qu'on appelle les CRS, alors ça c'est plutôt eux qu'il faudrait dégager. Je ne peux pas rester inactif. Et ce que je regrette un peu, c'est qu'on n'ait pas assez du métier à être dans ces cortèges. On est quelques-uns, mais pas assez.
Est-ce que tu vides ton travail ?
C'est la galère, quoi, voilà. C'est la galère. On nous dit... de renier les marges de plus en plus, mais arrivé à un moment, on ne peut plus. D'essayer de faire moins de frais, mais arrivé à un moment, on ne peut plus. C'est la mort. On est un des seuls métiers qu'on ait payé moins cher qu'il y a 25-30 ans, en ayant les charges qui ont augmenté deux fois et demi en 25 ans, et avec des produits qui ont baissé terriblement. Alors, il faut nous expliquer comment qu'on fait. Mais on est tous ensemble, avec les ouvriers, avec les instituts, avec le monde de la santé. On est tous ensemble. Parce qu'on est tous dans la même merde. Et ça, le gouvernement, il faut qu'il le comprenne et il faut qu'il dégage, hein, qu'il prenne la porte. Voilà, c'est tout. C'est un ensemble. Effectivement, il y a les retraites là, qui met, c'est encore pour faire comme en Amérique, l'américanisation de nos retraites. Mettre la main, parce que dans les caisses de retraite, il y en a du pognon. Il ne faut pas raconter de conneries. Et on veut mettre la main dessus pour, toujours pareil, les gros actionnaires et tout le bordel. Alors ça, c'est la politique du capitalisme. Voilà, et moi je lutte contre tout ça. Et il n'y a pas que moi, il y a tous les copains qui sont ici, tous les camarades, voilà.
Salut Lionel.
Salut.
Pas trop fatigué, parce que depuis le 5 décembre, je crois que t'as pas raté une manif.
Effectivement, j'en ai pas raté une, et non, pas fatigué, parce que je crois en ce que je fais, et je crois en ma présence en la manif aujourd'hui notamment.
Qu'est-ce que tu fais comme boulot, toi ?
Moi, je suis prof des écoles spécialisées. Je travaille avec des élèves en SECPA, section d'enseignement général, professionnel et adapté. Des jeunes qui ont entre 12 et 16 ans et qui bénéficient d'un enseignement particulier, en adéquation avec leurs besoins particuliers.
Je discutais avec un de tes collègues qui me disait que la suppression des SECPA, ce ne serait pas acté immédiatement dès la prochaine rentrée scolaire. Ça va être progressif, en fait.
Alors oui, les collèges ont une dotation d'horaires et notamment un nombre d'élèves qui sont inscrits en SECPA. Sauf que là, les SECPA vont être toutes limitées à 64 élèves maximum. 64 élèves en SECPA, ça signifie une sixième, une cinquième, une quatrième et une troisième SECPA. Et donc du coup, elles vont être limitées, notamment moi cette année, mon poste est supprimé. Donc je perds mon poste à la rentrée prochaine, parce que du coup on perd une division, ce qui veut dire une classe. Donc il y a un poste de PE, donc le mien, de prof des écoles qui est supprimé, ainsi qu'un poste de professeur d'atelier qui est supprimé également. Parce que du coup, au fur et à mesure, il y a beaucoup moins d'élèves qui sont admis en SECPA, même s'il est prouvé qu'il y a tout autant de demandes, voire plus de demandes d'orientation en SECPA. Mais il y a une volonté au niveau académique et voire national de limiter le nombre d'élèves en SECPA. C'est la loi de l'école inclusive. Déjà, la 6e SECPA n'existe plus en tant que telle. On appelle ça une classe inclusive et de préorientation. Donc du coup, les élèves doivent être inclus dans le milieu ordinaire. Mais du coup, il n'y a toujours pas de moyens pour travailler en projet avec les collègues de l'ordinaire. Et surtout, nos élèves ne sont pas tous capables d'être dans un dispositif inclusif, de pas leurs troubles particuliers, leurs besoins éducatifs particuliers.
Sabotage délibéré. Pourquoi enseigner les gens? Ça ne sert plus à rien. Maintenant, il y a des machines et des plombiers moldaves.
Exactement, et là, je te rejoins. Et notamment, c'est que c'est des élèves qui ne sont pas forcément productifs, qui ne rapporteront pas beaucoup, qui ne rentreront pas dans les grandes écoles. Aujourd'hui, c'est quand même au niveau national plus de 100 000 élèves concernés par la SECPA. Et surtout, la SECPA porte ses fruits. Moi, ça fait très longtemps que je fais ce métier-là. Et au bout de 15 ans, je croise des anciens élèves qui aujourd'hui sont des citoyens épanouis, heureux, qui ont un travail, qui donnent sens à leur vie. Et là, on se rend compte que cette population-là n'est plus du tout considérée, prise en compte. Donc on parle de la loi de la confiance et de l'école inclusive et de bienveillance, c'est tout sauf ça.
Nos gouvernants estiment qu'il y a des gens qui coûtent trop cher.
Ça coûte trop cher parce que du coup, c'est limité à normalement 16 élèves par classe en SECPA, sauf qu'on en a 18. Donc déjà, chercher l'erreur. Comme les enseignants, on a moins d'élèves, donc on est moins rentable aussi. On n'a pas des classes à 30, comme tous les autres collègues.
Ah oui, le prof de SECPA n'est pas coté en bourse, quoi. C'est...
Exactement, et on est loin d'être au CAC 40.
Qu'est-ce qui est marqué sur ton panneau?
Il y a marqué « Je suis 0,1%. » J'ai entendu mon ministre, Jean-Michel Blanquer, à la radio, où il a dit que nous n'étions que 0,1% des enseignants à ne pas être d'accord avec lui. Le calcul est très simple, nous sommes beaucoup plus que 0,1% des enseignants à être dans la rue, et à être mobilisés depuis le 5 décembre et à être en grève depuis, en grève reconductible.
Les jours de grève n'ont pas encore été défalqués sur les fiches de paie, mais ça va pas tarder à tomber, non?
Si, là, j'ai eu ma paye aujourd'hui. Ah. Les grèves du mois de décembre ont été ôtées.
Tu avais combien de jours de grève en décembre?
12. C'est con à dire, mais j'ai fait un séjour de remobilisation scolaire l'été dernier, avec des jeunes délinquants en Aquitaine. J'ai bossé durant mes vacances d'été en colo.
T'as capitalisé pendant tes vacances d'été.
Travaillé aux côtés de jeunes qui avaient vraiment besoin de ce séjour-là. Et la thune que j'ai gagnée, bah, je la mets dans la grève.
T'as financé ta grève de décembre sur tes vacances de juillet-août. Bah, tu vois que t'es moderne et que quand tu veux, tu peux traverser la rue et monter une start-up.
Exactement.
Enseignant, la colère gronde à la vue du projet Macron. Cette loi fait l'effet d'une bombe, on ne va pas donner notre opinion. Enseigner, oui, 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 exécuter, non, 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 imposons d'autres solutions. Enseigner, exécuter.
Salut Christian.
Bonjour.
En gilet jaune.
Moi, ce que je trouve que le gouvernement parle souvent de démocratie. En fait, il n'y a pas de démocratie. S'il y avait une réelle démocratie, je pense qu'il ferait voter les Français. Surtout pour l'histoire des retraites. Les retraites, ça concerne tout le monde. Et comme il y a la majorité de la population contre cette réforme, je ne vois pas pourquoi ils ne font pas voter les Français. Tant qu'ils ne feront pas ça, de toute façon, les mouvements n'arrêteront pas.
Ça fait combien de temps que tu bats le pavé?
Depuis le 17.
17 novembre 2018.
Je n'ai pas arrêté. On est comme tous, hein, on aimerait bien que ça s'arrête et puis qu'on retourne à la normale, je pense. De toute façon, je suis apolitique, je suis ni pour la gauche, ni pour la droite, ni pour l'extrême droite, ni pour l'extrême gauche. Je veux le RIC, que les citoyens puissent décider eux-mêmes.
Parmi les revendications des Gilets jaunes,
il y a justice fiscale, il y a justice sociale. Le gouvernement est payé, archi-payé, pour faire ce qu'il fait. Moi, je trouve que c'est pas normal. L'argent est mal redistribué.
Et encore, je te rassure, c'est pas les larbins politiques du capital qui nous coûtent le plus cher. Hein. C'est Bernard Arnault, Dassault et compagnie. Moi, je comprends que les gilets jaunes soient vaccinés du mot politique. Parce que quand tu dis politique à un gilet jaune, en général, il voit un politicard.
Bah oui.
Et j'ai eu beaucoup de discussions avec certains de tes camarades.
C'est « Ah non, 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 nous, on fait pas de politique, on réclame juste de la justice fiscale et de la justice sociale. » Mais je suis désolé, les Gilets jaunes, vous faites de la politique. Référendum d'initiative citoyenne, le RIC, bah, c'est faire de la politique.
Oui, c'est vrai, oui.
Et à mon sens, ce que tu exprimes là, c'est pas des revendications de droite.
Oui, mais c'est une appréciation que j'ai, quoi. Oui, bah quelque part, oui, on fait de la politique, quelque part, oui, oui.
Bonjour Yannick.
On est en union, là, c'est très bien, c'est très bien. Les gens sont encore toujours motivés pour le citoyen, pour l'ensemble, mais c'est parfait, moi. C'est tout ce que je recherche, social. Le citoyen a tellement été déçu d'une certaine politique. Le citoyen en a un petit peu marre d'être pris pour un con. Ben, ils ont intérêt de se méfier, gentiment. Au lieu de faire des esclandes dans leur télévision en train de regarder leur petit baromètre, c'est que le citoyen il a besoin d'avoir une certaine liberté et puis de dire ce qu'il pense. Ben, tant qu'ils n'ont pas compris ça, ben, ils ont du mou à se faire. La droite ou la gauche, quelle que soit la politique ou la personne vote, il ne faut pas taper sur le citoyen. Il y a toujours un retour de manivelle par la suite. Moi, je me défends pour un social. Et j'ai des convictions pour le social. Tant qu'on tape ou on laisse crever les gens, ils me verront. Vivre avec 495 euros par mois, je suis pas d'accord, moi.
On est en train de parler de citoyens, de justice fiscale, de justice sociale. C'est un discours de gauche. Mais il faudra finir par comprendre que le PS, c'est un parti de droite.
Tu comprends pas le citoyen dans la rue.
Le citoyen dans la rue, ça fait 25 ans que je l'observe. Ouais, hein. J'ai pas attendu les Gilets jaunes. Hein.
Ben moi, je vais te dire, le plus grand syndicat actuellement, c'est les Gilets jaunes. Depuis un an qu'on a tapé. Je suis pas d'accord pour la casse, je suis pas d'accord. On est là dans la rue, c'est pour rechanger les mentalités. Le but, c'est d'avancer. La lutte sociale, qu'elle soit n'importe quel syndicat, on est là. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que la convergence est arrivée. Ça a été dur, mais ils sont arrivés.
Sud Solidaire, ils sont venus rejoindre les Gilets jaunes assez vite.
On est une famille maintenant. Va falloir fonctionner famille. Et la famille, ça ne doit pas se déchirer. Et bien, le social, c'est la même chose. Si tu touches au social, tu déchires la France. Quand tu as commencé à déchirer la France, eh ben non de Dieu, tu as affaire aux citoyens, et eh ben le citoyen, eh ben il ne se laisse pas faire. Tant que je verrai qu'il y a un problème social, tant que je vois les gens qui crèvent la dalle là dans la rue, ça me fait chier, je meurs. J'en vois. Ben moi je trouve pas ça normal. Si on fait rien, ça veut dire qu'on accepte. J'accepte pas. Nous acceptons pas. Ben ils ont intérêt de venir nous voir et puis discuter, puis penser aux gens, avant de penser à leur propre éthique.
À leur propre pognon surtout. Hein.
Tu me mets vraiment me mettre dans un...
On est quand même gouverné par une oligarchie financière, par des bourgeois.
C'est le seul endroit que le citoyen ne peut pas avoir, c'est le politique. Et nous avons envie d'aller les voir. Nous souhaitons changer cette mentalité qui pense qu'à leurs bénéfices, à leurs propres intérêts.
C'est quand même les riches qui nous emmerdent. C'est quand même la bourgeoisie qui nous fait chier.
J'habite dans un système de bourgeoisie. Je paye des impôts, mais on est des bourgeois.
Tu gagnes pas des milliards.
Bon, peu importe. Il y en a qui vivent avec moi, et ce qui n'est pas logique. À partir de là, moi, je suis intransigeant. Un rond, ça rentre dans un rond. Un carré, ça rentre dans un carré. Moi, je suis une personne carrée, de droit. Si tu me fais rentrer dans un triangle, ça ne va pas le faire. Même si tu alignes, ça ne passera pas. Par contre, un carré, quand tu rentres dans un modèle. Bah, ce modèle-là, il a été bafoué pendant quelques décennies. Bah, maintenant, c'est le retour de manivelle. Oui, on est déçus. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. Donc, notre intérêt, bah, c'est de changer le comportement de nos politiques. Qu'on a profité pendant des années, qui se sont enrichis d'une manière ou d'une autre par intermédiaire de d'autres entreprises qui pensaient qu'à leur intérêt mais qui ne voyaient pas l'intérêt du citoyen. Maintenant que le citoyen est maintenant dans la rue qui dit ras-le-bol, ça fait chier, on commence à en avoir plein le cul de vivre avec le minimum de salaire et puis quand tu fais le calcul à la fin du mois, ben t'as envie de voir un peu plus haut, ben va falloir qu'il se décide hein, puis qu'il bouge un peu. Hein. 2020 est une bonne année, je crois, ça doit changer. Et puis le gilet jaune, comme dire, il est moins obtus qu'avant. J'ai rien contre les syndicats, j'apprécie qu'ils viennent. C'est la lutte sociale elle est là. On a tout à y gagner.
Plaisir de rencontrer Pierrot, l'un des animateurs de l'émission anarchiste Demain le Grand Soir sur Radio Béton. Donc salut Pierrot, communiste libertaire.
Oui c'est ça, mais la question c'est de pouvoir construire de la force collective. C'est vrai dans le domaine syndical, c'est vrai dans le domaine du mouvement social des Gilets jaunes dans lequel je suis depuis le début, c'est vrai dans le domaine de l'organisation politique dans laquelle je suis, qui est l'Union communiste libertaire. C'est tout un tas d'espaces qui coexistent et se complètent, on va dire.
Alors, un anarcho-syndicaliste qui fait la bise à un gilet jaune, c'est pas beau ça?
Moi je peux tout mélanger, c'est pas un souci.
Non mais ça fait plaisir quoi de voir du jaune fluo qui vient faire la bise à du rouge et noir.
Et réciproquement, inversement, enfin en tout cas moi je suis gilet jaune, rouge et noir, syndicaliste et tout ce qu'on voudra. Hein. Tout ce qui peut faire avancer un changement radical dans nos conditions de vie.
toi, quand tu parles de convergence des luttes, c'est pas juste du blabla, parce qu'effectivement, je te vois dans le mouvement des Gilets jaunes depuis un an, et ça nous a beaucoup fait gloser, ça nous a fait même nous engueuler entre nous. T'as toujours été sûr et certain, c'est le peuple qui est dans la rue. On a des copains bobos, enfin moi en tout cas, qui disent « Oui, nous on aime bien le bon peuple, mais celui-là, c'est pas le bon peuple parce qu'il est vulgaire ». Toi, tu t'es jamais posé ces questions-là, t'es dans la rue depuis un an avec eux, hein.
Ouais, la question, notamment l'extrême droite, elle est posée dans les Gilets jaunes comme elle peut se poser sur un piquet syndical, hein. Même si à la CGT, j'ai vu des fois des gros fachos. Là, je viens de me faire encore menacer physiquement parce que il y a chez les Gilets jaunes une frange, une radicalisation parce qu'on s'amenuise, on va dire, hein, avec la répression, avec la durée du mouvement social. On voit surnager à nouveau des gens qui ne sont pas clairs vis-à-vis de l'extrême droite, qui continuent à être dans le rapport de force, à nous menacer physiquement. Mais ça ne veut pas dire que tous les Gilets jaunes sont comme ça, bien au contraire. Les Gilets jaunes se sont construits une conscience politique, et cette conscience politique, elle est révolutionnaire et progressiste. Elle n'est pas d'extrême droite.
On voit depuis quelques temps, dans les manifs, des choses qu'on n'aurait pas imaginées il y a un an, à savoir par exemple une partie de Gilets jaunes qui s'exprime dans la voiture haut-parleur du syndicat Sud Solidaire.
Ça, c'est un positionnement très propre à Solidaire qui n'est pas partagé par les autres syndicats. Hein. C'est-à-dire que Solidaire soutient la lutte des Gilets jaunes depuis le fin novembre 2018. Eux, ils ne sont pas posés des questions existentielles longtemps. Solidaire tire les tracts des Gilets jaunes gracieusement pour soutenir depuis le début du mouvement. C'est des dizaines de milliers de tracts et c'est évidemment la possibilité de prendre le micro. Je crois que les Gilets jaunes l'ont compris parce que, évidemment, le syndicat pour qui ils ont de la sympathie, c'est celui-là. Donc c'est pour ça que c'est par hasard, si on retrouve souvent les Gilets jaunes derrière la bagnole de Solidaire, il y en a qui s'indiquent d'ailleurs parce qu'ils ont compris que c'était aussi important, mais c'est pas non plus obligatoire, c'est pas le problème. C'est ça la réalité du monde syndical, c'est qu'il n'y a que Solidaire qui vraiment soutient ce mouvement, quoi.
Des Gilets jaunes, ils sont vaccinés du mot syndicat parce qu'ils sont tellement fait enfumer par la CFDT et autres syndicats jaunes. Et puis les Gilets jaunes, et c'est un débat que j'ai depuis un an souvent avec eux, je l'avais encore à l'instant quand on s'est rencontrés, ils sont tellement vaccinés des politicards, des hommes et des femmes politiques qui leur font les poches. Quand tu dis politique, souvent un Gilet jaune, bah, ils voient un mec en costard qui te ment. Non mais les amis, ce que vous faites là, descendre dans la rue pour réclamer plus de justice fiscale et plus de justice sociale, vous faites de la politique, vous faites même de ce que la politique a de plus noble. Des syndicalistes le disent, hein, hors micro parfois, ils disent heureusement qu'il y a eu les Gilets jaunes, sinon Macron il nous aurait déjà défoncé la sécu. Mais en fait vous nous avez fait beaucoup de bien, et vous avez fait progresser bien des tronches, et y compris des tronches syndicalistes. Mais ce que vous faites les amis, c'est de la politique, et excusez-moi, pas de la politique de droite, hein, parce que réclamer de la justice, de la démocratie, de la solidarité fiscale et sociale, bah, ça,
l'augmentation des revenus.
Ça s'appelle peut-être même l'anarchisme, du socialiste, la gauche.
Je suis anarchiste mais ça m'intéresse pas, je suis pas là pour récupérer le mouvement, hein. Ça serait la pire des conneries à faire. S'il y en a qui se déterminent anarchistes, tant mieux, on sera plus nombreux, mais c'est pas un prérequis. Hein. Moi, je demande pas aux gens d'être anarches. Les Gilets jaunes font la différence entre la politique politicarde et le politique qui concerne la vie de la cité et le choix de société. Et c'est pour ça qu'on retrouve de plus en plus de Gilets jaunes qui se posent des questions essentielles de choix de société, que ce soit sur la question du partage des richesses, de l'exploitation de classe par la bourgeoisie, sur la question écologique, sur la question de l'amélioration des services publics. C'est quelque chose qui a avancé de manière magistrale depuis le 17 novembre 2018. Faut se rappeler qu'on était sur les taxes qui augmentaient sur l'essence. Il a fallu commencer à expliquer qu'il y avait une différence entre taxes et impôts et que les impôts allaient aussi aux services publics. Quand on regarde le chemin qui a été parcouru, c'est énorme, énorme. C'est pas un hasard si effectivement beaucoup se rapprochent des syndicats de transformation sociale et de lutte comme Solidaire ou des anarchistes parce qu'évidemment, ils se posent les vraies questions. On n'arrête pas de le rappeler dans les tracts, question de l'augmentation des revenus, des salaires, des pensions, des minima sociaux, sur la question de l'amélioration du service public, sur la question de la démocratie, parce que là c'est important, mais en dictature de classe. Hein. On voit bien comment on se fait massacrer depuis un an et demi, pas le droit de manifester, si tu gueules, tu prends un coup. C'est ça le gouvernement qu'on a. Hein. Et sur la question écologique, puisqu'on est aussi très présent dans les manifestations climat, tout ça participe d'un tout. Ce tout, il est bien compris par la plupart des Gilets jaunes qui justement sont appropriés ces questions essentielles de choix de société, tu vois. Alors voilà, on est moins nombreux maintenant, mais en même temps, il y en a beaucoup qui l'ont enlevé par peur de la pression, beaucoup qui sont aussi, parce qu'ils sont syndiqués et qui sont dans d'autres étiquettes, mais les Gilets jaunes sont toujours là, comme on le voit encore aujourd'hui.
Grâce à ce mouvement des Gilets jaunes, on n'est pas dans le même pays que quand ils ont commencé.
Non, c'est clair. Et alors, faut parler de ce qui se passe dans le monde, hein, parce qu'il y a des révoltes un peu partout. Ça a circulé, on a vu des photos de Gilets jaunes un peu partout dans le monde. Et il y a une révolte populaire partout qui se partage à partir des mêmes revendications. On subit le même type d'exploitation. On la sent, la révolte populaire qui monte dans différents pays par rapport aux gilets jaunes et aussi sur les méthodes d'action. On voit qu'il y a des syndicats qui partagent ce mode d'action, puisque les syndicats à la base qui sont en train de faire ce qu'on a fait pendant des mois, rentrer dans les supermarchés, faire des blocages en plus de la grève. C'est tiré de cette expérience de la lutte. Ça veut dire que même dans le monde des syndicales, etc., eh bien, cette expérience, elle porte ses fruits. On reprend aussi ces expériences de blocage qui ont été menées, etc.
Un truc qui m'a semblé pas nouveau, mais qui s'est amplifié, c'est que sur ces dernières manifs-là, moi, quand je discute beaucoup avec les gens, en fait, ils ne me parlent pas spontanément de la retraite, ils me parlent de cette société capitaliste de merde qui piétine tout le monde et qui fait qu'on n'arrive plus à joindre les deux bouts. Et un truc qui s'est amplifié, je trouve, c'est qu'on voit maintenant dans ces manifs des gens jusque-là très calmes, très pondérés, très abonnés au Nouvel Obs, très oh là là, pas de vague, qui sont mécaniquement dans la rue aujourd'hui parce qu'ils n'y croient plus au ruissellement. Ils sont dans la merde.
Les gens, ils sont là aussi, pas que contre la réforme des retraites, ils sont là aussi parce qu'ils se battent depuis longtemps sur la question de l'augmentation des revenus, parce qu'ils finissent pas leur fin de mois, parce qu'on a un véritable problème social et économique dans ce monde, dans un des pays les plus riches du monde. Et je ne parle même pas des gens qui sont à la rue, parce qu'il y en a beaucoup et de plus en plus. Bah, les gilets jaunes, en tout cas, sont là pour ça, parce que eux, ça fait longtemps qu'ils ont compris que ça relevait du choix de société et que les revendications, ils étaient bien plus larges que ça. Bien sûr qu'il faut gagner sur la question du retrait de la réforme, mais il n'y a pas que ça qui nous mène, hein. On est bien d'accord. Hein.
Dans la manif, magnifique spécimen d'intermittent du spectacle Gilets jaunes en grève. Salut Pascal.
Bonjour.
Musicien, contrebassiste.
Contrebassiste, oui.
Luke Rockab.
Moi je suis là pour vraiment réveiller les gens, dire il y a un problème et ça commence à se voir et les gens commencent à le voir et c'est rassurant. Mais la lutte, elle s'arrête pas là, quoi. Là on va démonter les retraites, mais il faudra continuer après. C'est pour ça que je suis gilet jaune. Sinon je serais syndicaliste et je ferais juste ça et puis je rentrerai chez moi après, quoi. Mais non, j'ai pas envie, quoi. Moi c'est pour mes enfants que je me bats, pour mes parents. Et moi aussi j'ai envie de, toi, d'avoir une petite retraite aussi, profiter de mon jardin, de ma famille, de mes amis, quoi. Les gilets jaunes, il faut bien comprendre qu'ils sont là pour le bien commun et la bienveillance. C'est contraire à tout ce qu'on dit, ce qu'on peut entendre. Évidemment, il y a des gens de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, mais ils ont tous signé une charte du bien commun. Tous les mecs hein, qui sont un peu fachos, racistes et compagnie, ces mecs-là, ils giclent. Ils sont pas autorisés nulle part, quoi. C'est un mouvement citoyen, le mouvement Gilets jaunes. Ça regroupe des gens de tous bords et plein de gens qui font pas de politique, qui d'ailleurs font de la politique avec les Gilets jaunes. C'est la première fois de leur vie qu'ils font de la politique. Et ça, c'est bien, parce qu'on retrouve la politique dans le sens noble du terme. Pas des mecs qui sont juste des pantins à servir, quoi.
C'est bien que tu aies cette discussion avec les Gilets jaunes sur le vocabulaire, parce qu'ils sont tellement vaccinés des politicards qu'ils veulent plus entendre le mot politique.
Ils font l'amalgame comme le terme, souvent ils disent apolitique, ce qui n'est pas vrai, c'est apartisan pour la plupart. Parce que c'est clairement un mouvement politique, les Gilets jaunes.
Oui, mais ils veulent pas l'admettre. Quand tu leur dis, mais attendez les amis, quand vous descendez dans la rue pour demander de la justice fiscale et de la justice sociale, vous faites de la politique, et pardonnez-moi, pas de droite.
Tout à fait. Et moi j'invite tous les gens qui se sentent de gauche, mais qui ont un petit problème avec tout ça, je vous invite à aller écouter Franck Lepage. Il a fait une spéciale sur les Gilets jaunes, où il explique bien que malheureusement le mouvement de gauche, ils sont passés un peu à côté de la révolution, moi j'arrête pas de le dire, quoi. La gauche, elle a foiré, et il est temps qu'elle se rattrape, quoi. Parce qu'il y a des gens plein de bonne volonté, quoi. Pour envoyer du lourd, faut sortir, faut faire des actions. Prenez vos mairies si vous pouvez. Nous, chez moi, dans mon village, on est en train de monter une liste pour prendre la mairie là-bas. On n'a plus de maire, on ne veut pas se retrouver avec un gars de la haute chez Macron, quoi. Mais après, on pourra détailler plus, hein, parce que Macron, c'est juste un pantin servile. Il faut quand même, c'est ce qu'on appelle le valet servile. Il bosse pour l'oligarchie. Le premier oligarche de France, c'est Jean de Courtis, hein, le président d'Axa Assurance, etc. Il est aussi directeur de l'enseigne Montaigne et actuellement, c'est le président du groupe Bilderberg. Alors renseignez-vous sur ce qu'est le groupe Bilderberg. C'est depuis les années 1952, tous les présidents du monde occidental passent devant eux pour savoir s'ils sont OK avec la haute finance, etc. Et ça, c'est pas du complotisme, c'est réel. Ils étaient à Genève cette année. Il faut vraiment que les gens s'intéressent à tout ça. C'est notre avenir, quoi.
Allez, on va le préciser pour les gens qui se croient malins en étant antisémites. Dans le capitalisme et dans la haute finance, figurez-vous que les juifs ne sont pas majoritaires.
Alors, faut quand même savoir qu'il y a le plus gros mouvement juif, c'est l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, qui sont tous juifs et antisionistes. Ils critiquent la politique d'Israël, qu'ils considèrent comme une politique dangereuse, coloniale et raciste, anti-africain, très clairement, quoi. Donc moi, j'arrête pas chez les Gilets jaunes de dire attention, arrêtez de parler des juifs comme ça, ce n'est pas vrai. Les juifs, ils sont comme nous tous, hein. Ils veulent vivre peinards, tranquilles, la grande majorité. Hein. et ils sont contre ce qui se passe à Israël avec les Palestiniens.
On va en revenir au pavé qu'on est en train de battre aujourd'hui, et là je me tourne vers toi. Bon, ça fait évidemment plus d'un an, toi t'as pas attendu le 5 décembre hein, pour aller dans la rue. Je t'ai vu tous les samedis au Gilet jaune.
Là, j'ai sacrifié mes dates de concert, j'ai sacrifié beaucoup de choses pour être là, quoi.
Bon, dis donc, ça te fait pas du... Là, il y a une fanfare, un second line. Ça symbolise aussi, allez, ce que je vais appeler rapidement, le retour des intermittents dans la rue. Parce que franchement, en tant qu'intermittent, bah, y avait toi, il y en avait deux, trois autres. Chez tes collègues intermittents du spectacle, il y en a qui sont en train de se rappeler qu'ils ont un devoir d'être solidaires de leur public.
Bien sûr.
Ça fait du bien parce que je me dis, putain, mais les intermittents, vous roupillez ou quoi là?
Ouais, ouais. Il y a des gens qui ont craché, ils ont été obligés d'annuler leur tournée de théâtre, etc. Pas oublier que la majorité des gilets jaunes qui sont là, ce sont des travailleurs, pour la grande majorité. Et ce sont des
donc
gens
le
qui
public.
Sortent, le public des artistes, et ça, faut pas l'oublier. Et puis, moi, je vous invite à écouter Mireille Perrier, qui était de l'Académie française. Elle dit bien que l'art, c'est fait pour revendiquer. Attention, c'est pas maintenant, on fait de l'art. Quand vous faites un spectacle privé politique, on va dire, vous allez par exemple à Avignon, vous le vendez plus maintenant, c'est fini. On refuse les spectacles, tout ce qui est... c'est scandaleux, c'est pas normal.
Des fois, je me mets un peu en colère vis-à-vis de certains intermittents en disant « Ouais, vous tueriez père et mère pour pouvoir aller à Avignon, mais vous vous souvenez même plus de qui est Jean Villard, quoi. »
Exactement.
En fait, le syndrome petit bourgeois, il a aussi frappé chez les artistes, quoi. C'est attention, hein, moi je fais de l'art, je fais pas de politique. Hein.
Non, moi je fais de la politique en permanence, j'en fais chez moi, j'en ai fait avec ma fille. Tout est politique, si on veut aller par là. Et puis c'est pas une mauvaise chose de faire de la politique. Le meilleur, moi je pense, c'est l'horizontalité. Ce que j'aimerais faire dans ma commune, qu'il n'y ait pas de maire, que ce soit horizontal, parce qu'il y a toujours ce problème de la représentativité, ce que critiquent notamment les Gilets jaunes, qui veulent une vraie démocratie. Là, on a une démocratie oligarche, ni pour eux. Hein. D'ailleurs, on l'entend hein, de Rugy quand il parle de la police qui est là pour nous protéger, il parle bien d'eux. Hein. Il ne parle pas du peuple français, hein. Faut quand même être clair là-dessus. Quoi. Ben, je vous invite à vous renseigner sur tout ça. Il y a des gens qui font des bonnes vidéos, notamment Franck Lepage, voilà. Ça pour les artistes. Puis là, on ne peut pas le taxer de fasciste ou je ne sais quelle débilité, comme on a l'habitude d'entendre.
Ah, mais si, tu sais, Franck Lepage, il est très, 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 très à gauche. Et tu sais bien que les crétins des médias dominants nous répètent que les extrêmes se rejoignent. Hein. Quand tu as combattu Hitler, en fait, tu es un nazi.
Ah, ben ça, je suis entièrement d'accord. Moi, je le subis depuis des années. C'est marrant. Alors, parce
justement,
que...
je voudrais en revenir à ton cas personnel parce que je te trouve magnifique. Un intermittent du spectacle, gilet jaune contrebassiste de Rocab, je voudrais quand même que tu passes par Woody Guthrie. Alors, on peut être Rocab et avoir une conscience sociale pas à droite.
Évidemment, j'ai plein de potes qui sont rockers, qui ont une vraie conscience. Et Woody Guthrie, c'est l'exemple. En 1934, ce monsieur, sur sa guitare qui est américain, qui est le père de ce qu'on peut appeler la folk music, hein, tout ce qui est country folk, il avait sur sa guitare de graver 1934 aux États-Unis « This Machine Kill Fascist ». Un chanteur de country. Bon, il a notamment beaucoup influencé Bob Dylan, mais surtout Leonard Cohen. Je conseille aux gens d'écouter Leonard Cohen, les textes, tout, c'est incroyable. Hein. Le mec, il explique comment fonctionne le monde dans ses chansons. Et il y a énormément de gens, même aux États-Unis, hein, qui font de la country, qui sont extrêmement pacifiques. Il faut quand même savoir qu'aux États-Unis, 80% des gens qui font ce qu'on pourrait appeler de la country route, ce sont des Afro-Américains. Et n'oubliez pas qu'il y a eu les Black Appalaches, ces esclaves qui se sont échappés, qui sont partis dans les montagnes, et qui jouaient du banjo, du violon, etc. Parce que la country, il ne faut pas oublier que le banjo, c'est un instrument africain, c'est une percussion africaine quoi. Et après vous pouvez même remonter à Django Reinhardt qui passait son temps au Texas, qui allait voir les groupes de western swing, qui tournent exactement comme le swing manouche. Vous avez forcément des gens racistes et débiles, il y en a partout, on en a chez nous, on en voit, j'ai tant à croire qu'ils restent quand même minoritaires, je l'espère. Et moi, ce que je vois depuis qu'il y a les gilets jaunes, c'est que les gens sont plutôt dans la bienveillance, le bien commun. C'est extrêmement important. On a oublié toutes ces choses-là, quoi.
Les gilets jaunes, ils ont fait bouger les lignes, ils nous ont fait cogiter. Et en fait, je crois que les gens leur sont vachement reconnaissants, en fait, hein, que ce soit chez des syndicalistes ou des gens lambda. Il y a eu un avant et un après gilets jaunes.
Il n'y a pas photo. Quand moi, je vois certaines personnes que j'ai rejoint sur les ronds-points qui voulaient 300 balles de plus pour aller bouffer au McDo et boire du Coca, qui ont compris que maintenant, il fallait même plus aller au McDo et acheter de Coca, il y a quand même une évolution qui est incroyable. Et ces gens-là commencent à parler d'économie, commence à comprendre comment ça fonctionne. Après, c'est compliqué, mais au moins avoir les bases, c'est quand même super important. Et ils ont vraiment compris qu'il y avait un souci. Puis là, ça devient flagrant. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les banlieues, ils subissent cette violence policière depuis très longtemps. Hein. Quand il y a eu toutes les violences à Joué-les-Tours, moi, je travaillais à l'époque, je n'étais pas musicien, donc il y a très longtemps. Et je me rappelle de ces jeunes avec qui j'ai discuté, ils n'étaient pas là pour tout casser. Ils revendiquaient qu'ils en avaient marre d'être traités comme de la merde. Comme Sarkozy avait dit, oui, c'est la racaille, on va régler leur compte à la racaille. Et il y a un petit jeune des cités qui a dit « Ah ok, on est la racaille, ben on va devenir la racaille. » Et c'est à ça qu'on pousse les gens. Voilà, moi je me considère ni de gauche ni de droite.
Je crois que être pour la justice fiscale, la justice sociale et contre le capital, c'est pas super de droite. Hein.
Non, mais il faut quand même rappeler qu'historiquement, la gauche, c'est la bourgeoisie qui l'a inventée et pas le peuple. Et que dedans, il y avait vraiment des gens qui voulaient aider le peuple, mais il y en a d'autres, c'était par intérêt. Et l'histoire, c'est quand même intéressant de se pencher dessus et d'aller écouter des vrais historiens. Il y a une historienne qui est hyper intéressante, La Croirie.
Annie Lacroix-Riche, oui. Lacroix,
voilà. Mais comme Monique Pinson-Charlot, comme à tous ces gens qu'il faut vraiment écouter, ou Bernard Friot, ce grand communiste. Moi. Mais je le dis, j'écoute aussi des gens de droite. Il y a des choses à prendre partout. Et après, quand on aura démonté ce putain de gouvernement, qu'on aura fait comme la Deuxième Guerre mondiale, un Conseil national de transition, tranquille, on mettra tout à plat. Et là, on pourra parler réellement des problèmes. Parce que l'immigration, il faut que les gens comprennent que c'est une arnaque. Les gens préfèrent rester chez eux. Et donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'on rende l'indépendance totale à l'Afrique, qu'on arrête avec la France-Afrique. Et même, j'irai plus loin, l'euro, ça a fait de la France une colonie. Comme tous les pays européens, nous sommes maintenant devenus une colonie. Ça fonctionne comme le franc CFA. Ça, il faut vraiment que les gens intègrent toutes ces choses-là. Mais ça vient, ça vient. Et tout ça, messieurs, dames, c'est pas du complotisme. C'est des faits que vous pouvez vraiment vérifier. Quand je parle, les gens me disent « Ah, c'est bien ce que tu me dis ». Je leur dis toujours « Tu rentres chez toi et tu vérifies ce que je t'ai dit ». Faites vos recherches vous-même, c'est le plus important. Comme les gilets jaunes, il faut prendre son indépendance, il faut y aller, il faut reprendre les choses en main, c'est tout. On est là pour ça, pour nos enfants, pour l'avenir. La planète aussi, on est en train un peu de déglinguer la tête. Mais...
Cette musique-là, qui est derrière nous, elle est née entre les champs de coton et la Nouvelle-Orléans. Hein. Elle a une dimension sociale et politique. Hein.
Le fond du New Orleans, très clairement. De toute façon, il n'y a pas plus merveilleux que la musique. Puis on le voit, ça attire les gens. Les gens aiment ça. Et les gens, même qui ne sont pas dans les manifs, regardent avec plaisir. Et puis ils voient bien que c'est, voilà, les gens sont là pour partager. Et la musique, ouais, c'est même révolutionnaire, la musique.
Salut André.
Salut. Aujourd'hui à la manif il y avait très peu de cheminots, ils étaient extrêmement discrets. En revanche il y avait énormément de professions, des fois assez inattendues, hein. Les avocats étaient en nombre. Quantité de gens, soit de la fonction publique, soit du secteur semi-privé ou privé. Et il y avait énormément de jeunes et de figures qu'on n'avait jamais vues dans les manifestations. Le mouvement effectivement s'étend et prend une autre dimension. 40 jours de grève, hein. Mon fils c'est dans ses cheminots qui ont un mois et demi qui va sauter quoi. Et ça fait quand même mal un mois et demi. Hein. Mais il y a des gens qui sont mariés, qui ont des gosses, et des traites à payer, etc. T'sais, les jours vont être quand même difficiles. Ce qui est souhaitable, c'est que d'autres professions reprennent le relais et développent le mouvement. C'est possible. Hein. Il y a des secteurs qui sont très remuants. Hein. Les ports et docks, le raffinage, d'autres secteurs sans doute inattendus qui peuvent rentrer dans la danse. La prise de conscience, elle s'étend, elle s'amplifie. Les gens ont bien l'impression qu'ils vont se faire mettre par cette réforme, épouvantable réforme, destruction de la protection sociale. Je suis allé à toutes les manifestations, j'irai à toutes les manifestations, et s'il y a des choses encore plus difficiles, encore plus dures, je serai encore là, mais il faut que les gens se démènent. C'est leur vie qui est en cause. C'est vital comme manifestation. Alors, bien sûr, nos médias aux ordres ont essayé de faire croire aux gens que c'était quelques manifs de privilégiés, de corporatistes qui protégeaient des avantages acquis, etc. En fait, tout le monde a y perdre, y compris des cadres. On va faire payer aux travailleurs le maintien d'une sécurité sociale moribonde. En fait, ce qu'ils veulent, c'est que les gens prennent des fonds de pension. On le sait bien, c'est clair. Mais s'imagine pas, les gens, combien ça va leur ponctionner sur leur consommation.
Surtout qu'un fonds de pension, c'est guère que des gens qui spéculent et qui jouent au Monopoly avec ton pognon et qui peuvent perdre. Hein. Ça s'est vu aux États-Unis avec Enron, par exemple, où des travailleurs américains qui avaient été obligés de cotiser dans des fonds de pension ont vu leur mise, leur capital et leur retraite s'envoler d'un coup parce que Enron s'est écroulé, ils avaient joué avec le pognon et ils avaient perdu.
Le profit capitaliste est quand même quelque chose d'assez instable en ce moment. Hein. Bien sûr, il y a des gens qui font des profits gigantesques à titre individuel. Mais bon, tout n'est pas aussi juteux que ça. Or, ils gèrent des fonds de pension gigantesques. Aux États-Unis, En Allemagne, au Japon, ce sont des milliers de milliards de dollars de fonds de pension qui sont gérés, en permanence injectés dans le système financier spéculatif pour essayer de rapporter ou de garder sa valeur. Ces systèmes peuvent s'écrouler complètement et laisser des millions de travailleurs sans aucune ressource. Leur retraite envolée, capital et intérêt, enfin tout quoi. Si les gens veulent jouer avec ça, avec leur vie et puis avec la vie de leurs enfants aussi, tu vois. Bon, laisser se perdre un truc aussi extraordinaire que la sécurité sociale, c'est très coupable hein, de la part des gens, très coupable. J'en veux beaucoup aux gens qui restent dans le cul dans leur fauteuil.
Le déclencheur, la goutte d'eau qui met le feu aux poudres, c'est bien entendu cette soi-disant réforme des retraites, mais il m'a semblé spontanément que les gens ne parlent pas forcément de ça d'entrée de jeu, mais que c'est une vision, pour le coup, plus globale. Les gens ont bien compris qu'ils sont la proie du système capitaliste et que dans la ligne de mire après les retraites, bah, y aura la sécu, y aura et tout le reste.
Là, en l'occurrence, j'ai le même sentiment que toi, j'ai vu des panneaux qu'on n'avait jamais vus, et des panneaux qui remettent en cause pas seulement une mesure législative de ce gouvernement de merde, mais l'ensemble de la politique sociale, qui est une politique de coup d'état social, de destruction des solidarités existantes, des conquis sociaux, etc. Individualiste, sans aucune solidarité, tout le monde ennemi de tout le monde, c'est épouvantable. Dans un système ultralibéral, en fait, c'est le rêve capitaliste, hein, c'est-à-dire il n'y a plus que des individus. Il n'y a plus de communauté, il n'y a plus de groupe, il n'y a que des individus qui se battent dans une espèce d'énorme ring social hein, où les meilleurs l'emportent. Généralement, c'est toujours les meilleurs qui l'emportent. Il y a des gens qui se couchent tout de suite hein, et qui en prennent plein la gueule. Le poulailler libre, avec un renard libre dans le poulailler libre, en quelque sorte. C'est-à-dire, tout le monde est libre, tout le monde est libre. T'as le droit d'être riche si tu veux. Donc, on est en train de bousiller un siècle de conquête sociale. Il y a un certain nombre de gens assez crétins pour penser que c'est arrivé tout seul. C'était le progrès. Personne s'est battu pour ça, personne n'est mort pour ça, personne n'est monté sur les barricades pour ça. Mais qu'est-ce qu'ils croient, les gens? Ça s'est pas fait tout seul. Tu t'imagines que le capitalisme a, dès le départ, accepté que les gens aient une sécurité sociale, une retraite, une assurance maladie. Mais enfin, il y a eu des luttes. Hein. Mon père a été déporté, mon père était à la CGT. Il a été déporté, il a fait un an de déportation. Ça lui a quand même coûté assez cher pour savoir ce que c'était que la sécurité sociale. Elle a été faite par ces gens-là, la sécurité sociale. Par des gens qui se sont battus, qui ont résisté.
Par ces gens-là, on précise, hein, par des militants de la CGT et par des militants du Parti communiste français.
Bah bien sûr, évidemment.
La sécurité sociale, les caisses d'allocation familiale, le système des retraites, c'est pas les patrons pris d'une subite crise de conscience qui auraient sorti leur corne d'abondance pour soulager les misères du peuple. Dites pas acquis sociaux, dites conquis sociaux ou conquêtes sociales. D'ailleurs, la preuve que c'est pas acquis, c'est qu'ils sont en train de le défoncer aujourd'hui. Et il faudrait rappeler ce qu'on doit à ces salopards de communistes staliniens, comme si les communistes français étaient des communistes soviétiques.
Bah, ça a été bien pratique, hein, le goulag et le système soviétique, pour déconsidérer l'ensemble du communisme et de la pensée, de l'espérance, de l'humanisme que contenait le combat communiste. Bon, mais pour revenir à ces conquêtes, elles ne sont pas acquises définitivement. Il faudra se battre pour les défendre. Alors, jusqu'à présent, les différents gouvernements libéraux qui se sont succédés depuis 30 ans, ces gouvernements, ils n'ont pas osé procéder brutalement. Ils ont procédé par petites touches, y compris les socialistes, d'ailleurs, soit dit en passant. Moi, je crois me souvenir que c'est Fabius qui a supprimé l'échelle mobile des salaires. Jusqu'à la maire El Khomri, gouvernement socialiste, qui s'est carrément attaqué au code du travail. Quand même, il y avait eu des résistances sous Chirac. C'était pas simple, hein. Juppé, Balladur, etc. On procédait avec beaucoup de prudence parce qu'ils craignaient hein, une riposte dure. Mais ce qui caractérise Macron, c'est son outrecuidance. Lui, il pense qu'il peut y aller. Il y a une brèche. La gauche est réduite à pas grand-chose. Les syndicats sont divisés. Les gens sont démoralisés. On va pouvoir en profiter pour s'attaquer au noyau dur, c'est-à-dire au système de protection sociale. Bon, alors bien sûr, derrière Macron, hein, il y a les autorités européennes, il y a le grand capitalisme, les recommandations de tout ce qui est capitalisme financier européen, etc. Enfin bon, le CDE, Bruxelles et la Banque Rothschild, et les autres. En fait, il n'est que l'homme de main du grand capital. Alors il procède de façon monstrueuse, quoi. Moi j'ai vu dans la manifestation des gens crier « mais c'est pas ton fric, c'est nos cotisations ». Certes, c'est régi par un code de loi qui a été établi, c'est pas les impôts. C'est des cotisations sociales. Ce qui dérange, c'est qu'il y ait des cotisations patronales obligatoires. Le but, c'est de supprimer les cotisations patronales. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein de pays où il n'y a pas de cotisation patronale. Là, c'est formidable parce que le coût du travail est vachement moins élevé. Écraser le coût du travail. Si les patrons n'ont plus à cotiser pour les cotisations sociales, allocations familiales, assurance maladie, assurance retraite, etc., ça fait autant de moins à verser pour le patron. Donc autant de bénéfices en plus. Le bénéfice capitaliste, il vient au départ du fric qui est pompé sur le travailleur exploité, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. Sans compter que la sécurité sociale, c'est des centaines de milliards d'euros qui échappent à la spéculation financière. Tout ce pognon juteux qui échappe aux sociétés d'assurance et aux banques, c'est insupportable. Non, il faut que les gens cotisent, se fassent un fonds de pension. Petites économies, quoi, un petit pirentier, hein. Il est bien évident que tout le monde ne pourra pas cotiser. Tu t'imagines, avec un SMIG à 1000 euros, tu vas distraire quoi pour te faire une retraite décente? Alors évidemment, si tu gagnes 10 000 euros par mois, c'est pas un problème, tu te fais ta retraite. Hein. Mais si tu gagnes 2 000 euros par mois, comme la plupart des travailleurs en France, hein, c'est salaire archi-dominant en France, hein, tu vas aller où pour faire ta retraite? Celle de ta femme éventuellement, et protéger tes enfants contre la maladie? Quand tu vas aux États-Unis, les gens ont des gros salaires à vert, hein, ça a beaucoup changé, mais enfin, il y a encore une vingtaine d'années, des salaires assez importants. Seulement, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, à ce salaire, il faut retirer toutes les assurances privées. Assurance pour toi, pour ta femme et tes enfants. Assurance pour la maladie, l'hospitalisation, les dents, pour les lunettes, pour la bagnole, assurance pour la maison. T'as intérêt à avoir un gros salaire si la moitié de ton salaire disparaît dans les assurances privées. Les sociétés américaines d'assurance, c'est pour ça qu'elles sont immensément riches. Elles mobilisent un fric absolument considérable. Tu t'imagines un peu ce qui est drainé par ces sociétés-là. C'est ce qu'on voudrait faire en France. Tout le monde se démerde pour son assurance, pour sa protection sociale. On revient au 19e siècle, quoi. Sauf que faire des travailleurs des petits rentiers qui peuvent vivre de leur rente le reste du temps, c'est impensable, c'est aberrant. Donc vers quoi on va dans ces cas-là? Un appauvrissement généralisé de la classe ouvrière. On va retrouver les bonnes vieilles ambiances à la Dickens. Hein. Plus de protection sociale, plus de filet. Obligé de cotiser pour tout, quoi. C'est un peu ce qui a commencé à se passer dans l'assurance maladie. Hein. Au fur et à mesure que l'assurance maladie se désengageait progressivement pour rembourser les soins, c'est aux gens à prendre une mutuelle, donc une assurance privée, à côté. Parce que les mutuelles, il ne faut pas se faire d'illusions, maintenant elles sont régies par un code qui a été européanisé il y a quelques années sous les socialos, qui en fait oblige les mutuelles à avoir un mode de fonctionnement comme les assurances. Si t'as une bonne mutuelle, bah t'as des lunettes et un dentier. Si t'as pas une bonne mutuelle, bah t'as des dents pourries et tu vois pas. C'est aussi simple que ça. Parce que la sécurité sociale, elle, il y a des soins qu'elle ne rembourse plus. Si tu considères également une dégradation de l'hôpital public, l'assistance publique des hôpitaux, etc., on retourne à la misère du 19e siècle, à côté de monstrueuses fortunes, quoi. Moi, je me souviens qu'il y a une trentaine d'années de ça, lorsque tu disais, moi, je suis communiste, je suis marxiste, je pense que le capitalisme, c'est un système à la con, qui, tu vois cohabiter des fortunes gigantesques à côté de prolétaires surexploités. Il disait, mais ça, c'est une vision du 19e siècle. Tu sors ça de ton imaginaire, de ton Zola et Germinal, etc. Mais regarde vers quoi on va actuellement. Les gens s'imaginent, ils ont un job même dans un secteur tertiaire quelconque, ils s'imaginent qu'ils ne sont pas des prolétaires. Eh bien, rendez-vous dans 20 ans, au train où vont les choses, vous verrez si vous n'êtes pas des prolétaires.
Dans les discussions que j'ai pu avoir avec les gens, souvent sans aborder le sujet, les gens parlent très spontanément des gilets jaunes. Il y a un avant et un après gilets jaunes, qui d'ailleurs sont plus vraiment les mêmes, je trouve, depuis un an. Eux aussi, ils ont fait du chemin, hein, en réinventant la roue de la politique. Alors malgré tout, il y a cet éternel problème de vocabulaire. C'est que les gilets jaunes, ils disent « Nous, on veut de la justice fiscale, on veut de la justice sociale, mais on n'est ni de gauche ni de droite, hein, on fait pas de politique. Hein, » ça va même jusqu'à une confusion chez certains gilets jaunes entre la politique et les politicards. Mais de l'autre côté, chez les syndicalistes, chez les gens, de manière générale, très clairement, il y a un avant et un après gilets jaunes. Et je trouve que les gens, en fait, en tout cas ceux avec lesquels j'ai pu échanger en manifestation, sont très reconnaissants aux gilets jaunes pour leur courage, pour leur engagement. Il y a des syndicalistes qui me disent, micro fermé, nous, les syndicalistes, on est bien gentils hein, de faire là où le préfet nous dit de faire. Parce qu'en attendant, les gilets jaunes sont plus efficaces que nous. Alors là, on a pu observer des choses dont les syndicats ont pu s'inspirer, à savoir organiser des manifestations, par exemple, sans que les travailleurs ne perdent de jours de salaire. C'est-à-dire qu'organiser des manifestations à 18h ou le samedi, tu peux aller exprimer ton mécontentement sur la voie publique sans perdre de salaire. Mais quoi qu'il en soit, la France n'est pas la même depuis les Gilets jaunes. Les lignes ont bougé.
Le mouvement des Gilets jaunes est un authentique mouvement social. Leurs revendications étaient légitimes, archi-légitimes, et ils représentaient des gens qui sont effectivement des gens exploités, victimes de l'injustice fondamentale de cette société. Ce sont les gens qui bossent et c'est les gens qu'on taxe. Il est tout à fait légitime que ce mouvement ait commencé par une protestation fiscale. D'ailleurs, sous l'ancien régime, ça a été un des motifs principaux de soulèvement des gens, au-delà de l'inégalité de la société d'ancien régime, qui est une société très inégalitaire, très hiérarchisée, etc. Le fond des manifestations, c'était des raisons fiscales. Moi, je leur suis également très reconnaissant de ces méthodes de lutte. Ils sont sortis un peu des rails, sortis un petit peu des trucs bien convenables, etc., pour se faire entendre. Il faut casser du matériel, mais il faut être très nombreux. Maintenant, il y a quand même une faiblesse. C'est que dire qu'on ne fait pas de politique, c'est une faiblesse. Tu n'obtiens rien. Il faut qu'au-delà de manifestation de ta colère, il y ait des objectifs très précis qui puissent être appliqués, soit législativement. Alors si tu n'es pas content, si tu trouves que le législateur, c'est tous des bandes d'enculés de politiciens véreux, bah t'en changes, soit par la révolution, soit par la loi, soit par les votes, mais t'en changes. Tu ne peux pas rester uniquement à la protestation. Sinon, c'est vaincu d'avance, hein, quelle que soit la violence des manifestants. Donc il faut qu'il y ait un débouché politique. C'est-à-dire que la revendication sociale, fiscale des gens est un aboutissement politique. Donc il faut qu'ils s'en occupent. Alors moi, je comprends leur dégoût de la politique, hein, car je le partage en partie. Nous avons dit énormément de mal des hommes politiques et des femmes politiques de notre époque. Hein. La trahison de la gauche socialiste, etc., de la gauche réformiste globale, hein, pendant des années, n'a pas été sans résultat dans la mentalité des gens. Qu'est-ce qu'ils se sont dit, les gens ? Ah ben, t'as vu, on a eu des socialos, c'est la même chose que la droite.
Ce qui est vrai.
C'est parfois pire. La confusion, le fait de dire la droite, la gauche n'existe plus, etc. D'ailleurs, il n'y a pas que les Gilets jaunes qui ont eu ce discours-là. Hein. Dans les médias, ça permet de faire passer Macron pour un type de centre-gauche. C'est à se la mordre, hein, à se la prendre et à se la mordre. Macron à gauche, tu me diras, il vient bien d'un ministère socialiste. En théorie, Hollande était à gauche. Comment veux-tu que les gens n'aient pas la confusion quand ils voient les représentants du grand capital issus d'un parti de gauche ? Si on utilise le mot « gauche » pour le Parti Socialiste, les mots ont perdu entièrement leur signification.
À partir du moment où tu percutes que le Parti Socialiste a toujours été un parti de droite, en fait, dans les faits, là, d'un coup, ça devient plus clair.
Oui, c'est ça. Dès que tu vois que la social-démocratie s'est vendue au capital déjà depuis pas mal de temps, la situation te paraît un peu plus claire. Sauf qu'à partir du moment où tu penses qu'une bonne partie de cette gauche-là, de cette gauche à la peau de lapin, faut la virer complètement et la remplacer par une vraie gauche, une vraie représentation du peuple et des travailleurs, parce que c'est ça la gauche. La gauche, c'est la partie politique qui s'intéresse aux pauvres, aux vulnérables, aux gens exploités, c'est cela. Au départ, la gauche, elle est socialiste. Hein. Alors bien sûr, il a existé une gauche républicaine qui est devenue une gauche modérée, qui ensuite après a versé dans la droite. L'évolution est très fréquente en France. Hein. Les radicaux, par exemple, ont été la gauche du Parti Républicain, et puis ensuite après ils se sont comportés comme un parti de droite, hein, jusqu'à leur disparition. Le Parti Socialiste aussi. Mais rien n'empêche le peuple aujourd'hui, c'est-à-dire les travailleurs, de refaire une représentation politique. Sinon, il n'y a aucune chance de réussir quoi que ce soit. On peut bien sûr pendre au premier arbre, à la première lanterne venue, les patrons, les chefs haillons, les contremaîtres, les exploiteurs, les buveurs de sueur, etc. Et quoi après ? C'est pas ça une révolution. La révolution, c'est quand le peuple prend le pouvoir. Pour lui. Tu renverses la table, les gens qui vivent de leur travail, 80% du corps électoral, reprennent le pouvoir réellement, au détriment des gens qui vivent du travail des autres. Mais il faut pour ça qu'il y ait une représentation politique. Alors c'est sûr que c'est difficile d'avoir aujourd'hui des hommes politiques et des femmes politiques honnêtes et incorruptibles. Tout le monde n'est pas Robespierre. Hein. Et il y a des gens qui, bien sûr, viennent au pouvoir politique pour gagner de l'argent, pour être dans le fromage. Bon, il faut inventer dans ces cas-là des formes de représentation politique qui soient différentes. Inventons. Les Gilets jaunes inventent des formes de lutte et de contestation nouvelles. Inventons des formes de représentation politique nouvelles. Bon, là, la contestation sociale, elle est indispensable aussi parce qu'elle permet d'exprimer l'opinion des gens sur une réforme particulière. Mais il faut ensuite, après, éviter d'avoir à se confronter en permanence à un pouvoir politique qui veut briser la protection sociale et enculer les travailleurs. Il faudra bien à un moment donné arrêter ça. Si c'est pour à chaque fois remplacer un loup par un autre loup, on verse dans le chaos le désordre politique et social complet. C'est la jungle en quelque sorte. Alors chacun s'achète sa Kalachnikov et on tire dans le tas. C'est pas comme ça. Il faut réinventer la politique. Il faut que le pouvoir soit au peuple et à ses représentants. Il faut faire un système de représentation correcte du peuple. Trouver quelque chose, y compris le tirage au sort. On fait bien ça pour les jurés d'assises. On peut bien faire un tirage au sort pour le législateur.
Ça se faisait pas chez les Grecs aussi, non ?
À Athènes, pas chez les Grecs, à Athènes. Il y a eu un système où, bien sûr, on a fait appel parmi les citoyens au tirage au sort. Tous les citoyens sont appelés éventuellement à faire la loi ou à l'appliquer. Mais bon, Athènes était quand même une cité relativement petite. Le nombre de citoyens ne dépassait pas quelques milliers d'individus. Mais c'est faisable. Non seulement ça suppose de refaire la politique, mais ça suppose aussi des citoyens qui s'intéressent à la politique. Parce que jusqu'à présent, les gens protestent contre leur représentation. Ils disent « Ouais, les députés, tous des cons, tous des pourris, les ministres, tous des salauds. » Mais quels sont les gens qui s'intéressent et qui surveillent leurs législateurs? Ils envoient des gens au pouvoir sans surveiller ce qu'ils font. C'est quand même assez invraisemblable. Les gens devraient s'intéresser aux lois qui sont votées. Par qui? Les citoyens qui sont souverains délèguent leur pouvoir à des gens, puis ensuite après ils disent « c'est tous des cons ». Alors on est tenté de dire bah, « vous avez les salopards que vous méritez ». Si vous surveillez pas ce qu'ils font, ça veut dire qu'à chaque fois vous faites enculer et vous envoyez des salopards, ou vous vous abstenez, c'est encore pire. Vous vous abstenez, c'est-à-dire que vous laissez les salopards agir. Et ensuite après vous dites « ah bah l'essence est trop chère ». C'est débile quoi. Il faut au contraire s'intéresser beaucoup à la politique. Les sans-culottes, pendant la Révolution française, ils étaient là avec leur pique autour de l'Assemblée nationale, puis ils regardaient ce que votaient les députés. Et quand ils voyaient que les députés votaient mal, eh ben, ça se passait mal. Il suffit de voir le 3 juin 93, quand ils ont viré les Girondins. Hein. Et maintenant, vous les passez en jugement, c'est des traîtres. Je ne demande pas à ce que les gens soient autour du Palais Bourbon avec des piques et des canons, mais il faudrait peut-être surveiller un petit peu le travail législatif des gens. Parce que Macron, il n'est pas tout seul, il y a quand même autour de lui une quantité de députés, des godillots, des crétins, des imbéciles utiles, des malhonnêtes, des carriéristes, etc. Mais qui les a envoyés ou qui les a laissés élire? C'est vous. Et maintenant, ils vous font du tort. Virez-les, puis prenez des gens honnêtes, essayez de trouver un système de représentation avec des gens qui vous représentent. Demandez-leur des comptes aux gens qui se présentent. En disant, vous êtes qui, vous? Vous faites quoi dans la vie? Qu'est-ce qui me garantit que vous allez être honnête et que vous allez représenter mes intérêts? Tu parlais tout à l'heure du Parti communiste. C'était le seul parti où il y avait des ouvriers dedans, parmi les députés. Dans les autres partis, y compris le Parti socialiste, il n'y avait pas d'ouvriers. Hein. Quelques instituteurs, quelques petits fonctionnaires, mais jamais d'ouvriers. Les seuls qui avaient des ouvriers, qui avaient des travailleurs, c'était les communistes. C'était pas tous des gens de l'appareil politique, etc., des apparatchiks et tout. Il y avait aussi des gens issus du peuple, des ajusteurs, des règleurs, des ouvriers de l'EDF ou de la SNCF ou d'autres choses d'ailleurs. Le Parti communiste s'arrangeait pour que ses représentants soient des représentants des travailleurs, pas des représentants de la petite bourgeoisie. Alors aujourd'hui, regardez un peu, quelles sont les professions des députés? Il n'y a plus que des petits bourgeois, dans le meilleur des cas, pour ne pas dire des fois des grands bourgeois. Alors on confie nos intérêts aux buveurs de sueur, puis ensuite après, on vient protester en disant « mais ils nous ont sodomisé à sec ». Bah oui, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre? C'est des exploiteurs. Vous votez pour un DRH? Il y en a un paquet de DRH hein, dans la majorité macronienne, là. Puis ensuite, après, vous dites, mince, alors, ils se comportent comme des patrons. C'est des patrons. PDG de PME ou de start-up, etc., des DRH de grandes sociétés, des technocrates qui sont passés de la banque à la finance, puis à la fonction publique, puis l'inverse, etc. C'est des gens qui ont tout le temps été du bon côté du manche. Et vous avez voté pour eux, vous les avez laissés élire. Et maintenant, ça vous fait mal, hein. Un peu normal, quoi. Bon, vous voulez réagir? Allez-y, faites de la politique. Si vous vous laissez à chaque fois diriger par ces gens-là, mais vous êtes baisés d'avance. Ils ont le manche, ils ont tout, ils ont l'instrument, ils ont les appareils, ils ont la violence légale pour eux. Ils peuvent vous écraser s'ils veulent. Et ils s'en priveront pas. Quand ces gens-là seront en danger, ils enverront les chars. Faites de la politique, de façon à contrôler la violence. Pour vous, contre les patrons et les capitalistes. Ça s'appelle la révolution.
Salut Gilles.
Salut.
Biologiste, éthologue, donc c'est-à-dire spécialiste du comportement des animaux, je suis tout à fait intrigué et admiratif de ton panneau, sur lequel il y a marqué...
Une solution, prendre sa retraite tout de suite. Bon, moi j'y suis en retraite, mais c'est un conseil que je donne aux jeunes. C'est le travail qu'il faut mettre en cause. C'est pas la façon dont on est aliéné par le travail, dont on est opprimé par le travail dans ce putain de pays. Et tous les gens qui bossent, qui sont complètement sous pression, qui se suicident ou qui sont en burn-out, etc.
Avant de prendre sa retraite tout de suite, est-ce qu'il faudrait pas qu'on fasse la révolution avant quand même ?
La faire avant la retraite, pour ceux qui sont encore jeunes, il faut qu'ils y pensent.
Prendre sa retraite, c'est bien, mais malgré tout, il y a quand même toujours des factures de gaz à payer.
Non, mais de l'argent, il y en a. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut aller le prendre là où il est. Hein.
Mais je pense que mécaniquement, parce que les gens n'arrivent plus à joindre les deux bouts, la théorie du ruissellement, tout ça, ils y croient plus puisqu'ils sont dans la merde. Et je trouve qu'on voit dans ces cortèges des gens jusque-là très pondérés, très calmes, pas révolutionnaires du tout, et qui là sont très en colère.
Oui, mais d'une certaine façon, c'est une suite des Gilets jaunes. Hein. Qui était un mouvement de gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il y en a trop comme ça, c'est plus possible. C'est pas que en France que ça bouge. Ça bouge vraiment un petit peu partout. Chili, Argentine. Et des mouvements qui se ressemblent, quoi, y compris en Algérie aussi, par exemple, contre une caste dirigeante qui accapare tout. Quoi. Et ça, c'est généralisé au niveau mondial, et ça, c'est extrêmement intéressant.
Et je crois que ça fait quelques années maintenant, alors qu'avant, le simple usage du mot capitaliste ou capitalisme te faisait passer pour un promoteur du goulag et un admirateur de Staline. Ouais, aujourd'hui, c'est un mot qui n'est plus tabou du tout.
Pas du tout.
Enfin, sauf chez Europe Écologie Les Verts, hein, où on fait de l'écologie compatible avec l'économie de marché, mais sinon...
Ouais, c'est le capitalisme vert. Non, c'est vrai, il y a un progrès au niveau de la conscience du fait que c'est le système qui est en cause. On n'en est presque plus à réclamer que le gouvernement fasse comme ci ou fasse comme ça. On a dit on n'en veut plus, c'est tout, quoi. On ne veut plus du système. Alors c'est vrai qu'on n'est pas au point pour savoir quoi mettre à la place.
Et en même temps, comme tu l'as dit tout à l'heure, du fric, il y en a partout, il y en a à chier partout, il y en a des montagnes. Ça dépend des coins du globe, mais en tout cumulé, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de richesses, de biens matériels.
Très très mal réparti au niveau du globe, et c'est très mal réparti à l'intérieur des pays, quoi. Et ça, c'est aussi un truc qui met en colère, c'est-à-dire à partir du moment où les gens sont exploités dans leur boulot, usés dans leur boulot, qui voient les patrons du CAC 40 et les actionnaires, ça ne fait qu'augmenter leurs recettes, c'est vraiment un scandale, quoi. C'est un motif de colère, de juste colère.
Travail pour ça et ferme ta gueule. Travail pour ça et ferme ta gueule.
Salut Thierry.
Bonjour.
Pourquoi t'es dans la rue aujourd'hui ? Et pourquoi t'y étais les jours précédents ? Parce que je t'ai beaucoup vu arpenter le pavé au lieu d'enseigner l'élagage à tes élèves dans un lycée agricole.
Je suis dans la rue parce que je pense qu'on a des machines. Les machines sont là pour remplacer les hommes et on devrait bosser moins et avoir un peu le temps de lire, de se cultiver, de participer à l'humanité, au bien de tous, quoi. L'homme n'est pas uniquement fait pour travailler. On n'a pas vraiment beaucoup changé par rapport au Moyen-Âge. Il y a toujours le seigneur et ses vassaux. Puis en dessous, il y a les serfs. Pourquoi faire bosser des mecs dans des conditions pénibles longtemps ? Après, je dis pas qu'il faille pas bosser, mais bosser pour une cause utile, mais pas bosser jusqu'à épuisement, jusqu'à sa mort, quoi. Hein. On doit s'épanouir en tant qu'humain, s'épanouir en tant que... sur notre planète, se préoccuper de notre planète, et c'est tout ça qu'on doit faire, quoi.
Pas trop fatigué, parce que t'en es pas à ton premier jour de grève ?
Non, je pense que je vais regréver jeudi, mais après c'est plus facile pour moi, j'ai pas d'enfants, qu'un couple qui a des enfants et qui est en grève à deux, c'est pénible, quoi. Moi, c'est beaucoup plus souple.
Il y a cette propagande qui dit que la grève, c'est gratuit pour les profs et les fonctionnaires. Hein, donc tu déments ?
Je déments, mais moi déjà j'ai 58 ans, donc j'ai déjà un petit capital. C'est beaucoup plus facile pour moi. J'ai pas d'engagement si ce n'est le mien, quoi. Donc en plus j'ai arrêté de fumer, donc c'est plus souple. On pourrait peut-être taxer aussi les retraites chapeau. On pourrait peut-être... Moi ce qui me manque aujourd'hui... C'est des philosophes qui amènent l'humanité et aussi l'homme politique à réfléchir, quoi. Pas un Piketty qui est simplement économiste, même s'il parle bien, mais des gens qui vont au-delà, quoi.
Et voilà les amis, c'est ici la fin de cette Radio Manif que vous pouvez réécouter sur notre site. Polémique, c'est lavoixoff.com, avant qu'on ne se retrouve très bientôt dans la rue, et sur cette même antenne, ce n'est qu'un combat continuons le début. Salut.
Terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G. www.radio-g.fr